Il vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Au Zimbabwe, c'est historique. Le président Mugabe vient d'accepter de démissionner. Le président Mugabe s'adressera ce soir à la Nation. Les détails de Camille Marigot au début de ce journal. Puis nous serons en direct avec la spécialiste du pays, Marianne Séverin, pour l'analyse de cet événement qui tourne aussi une page en Afrique. Le Chili vote pour le premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, l'ex-président de droite Sébastien Piñera est donné favori. Reportage de notre correspondante Justine Fontaine dans un instant. En France, c'est aussi une page qui se tourne pour François Fillon. Il s'est exprimé une dernière fois cet après-midi à la conférence de son micro-parti, compte rendu à suivre de Louise Baudet. Au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Nous parlerons de la politique de la ville telle qu'envisagée par Emmanuel Macron lors de son long discours cette semaine à Tourcoing. Le président de la République a parlé de mobilisation générale plutôt que de mesures spécifiques pour les quartiers. Nous en discuterons avec le sociologue Renaud Epstein et Catherine Arnoux, maire de Chanteloup dans les Yvelines.
Merci Julie et à tout à l'heure, 18h15. Au Zimbabwe, ça y est, le président Mugabe a accepté de démissionner. 4 jours après le coup de force des militaires qui l'avaient placé en résidence surveillée, le chef de l'État au pouvoir depuis 37 ans lâche les rênes. Après l'armée, la rue, son parti, la ZANU-PF, lui avait lancé un ultimatum en début d'après-midi qui a donc fait effet. Bonsoir Camille Marigot.
Bonsoir.
Robert Mugabe, s'est entretenu avec l'armée cet après-midi avant donc d'annoncer sa décision.
La deuxième rencontre même depuis que les militaires ont repris le contrôle du pays mercredi. Juste avant cela, vous l'avez dit, le parti au pouvoir à la ZANU-PF avait donné à Robert Mugabe jusqu'à demain midi pour présenter sa démission. Démission acceptée il y a quelques minutes. Donc aujourd'hui, la ZANU-PF a aussi désigné Emmerson Mnangagwa, qu'on surnomme là-bas le crocodile, candidat à la présidentielle de 2018. Celui-là même qui avait été limogé de la vice-présidence le 6 novembre dernier par Robert Mugabe. Une sorte de revanche pour Mnangagwa, donc, qui va assurer la présidence par intérim jusqu'au congrès extraordinaire de la ZANU-PF qui aura lieu le 12 décembre. À 93 ans, Robert Mugabe, le plus vieux dirigeant du monde, accepte donc de se retirer après 37 ans de règne. Avec lui, il entraîne vers la sortie sa compagne, Grace Mugabe, qui a également été exclue du parti. Robert Mugabe officialisera ce retrait du pouvoir ce soir lors d'une déclaration devant la nation.
Merci Camille Marigot pour vos détails. Bonsoir Marianne Séverin.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée au LAM, le laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Merci d'être en direct dans le journal de 18h. 37 ans de pouvoir, Robert Mugabe était le plus vieux dirigeant à la tête d'un pays dans le monde. On vit ce soir un moment historique.
Oui, nous vivons un moment historique, mais je pense qu'il ne faut pas se réjouir trop vite.
Pourquoi cette démission aujourd'hui ? Il n'avait plus le choix, Robert Mugabe ?
Je pense qu'il n'avait plus le choix et il y a un moment où il faut savoir lâcher les rênes et puis je vois pas comment il aurait pu refuser de démissionner dans la situation dans laquelle il était, d'autant plus que tous ses partisans se sont retournés contre lui.
Vous venez de dire à l'instant qu'il ne fallait pas se réjouir trop vite, pourquoi ?
Parce que le président par intérim, qui a 75 ans quand même, qu'on appelle le crocodile, finalement n'est pas forcément une personne avec une très bonne réputation, très proche des services secrets de l'armée. Il a été ministre des services secrets au Zimbabwe et quand même accusé d'avoir, muselé de manière très violente l'opposition. Donc, on enlève Mugabe, mais pour finalement se retrouver avec quelqu'un qui aurait tendance à lui ressembler.
Comment va se passer la transition, selon vous ? Comment peut-elle se passer ?
Alors, pour l'instant, moi, je n'appelle pas ça une transition démocratique. Hein. On est dans une pseudo-position, transition politique, avec finalement les mêmes qui étaient aux côtés de Robert Mugabe. Ce qu'il va falloir regarder, si l'opposition va pouvoir s'exprimer, si la société civile va pouvoir jouer son rôle et surtout si les prochaines élections qui normalement doivent être en avril 2018 vont être libres et transparentes. Donc, là est toute la question.
Alors justement, dans quel état est l'opposition aujourd'hui, Marianne Séverin, 37 ans de pouvoir, des années de dictature? Il y a une opposition crédible aujourd'hui?
Alors j'aurais envie de dire qu'il y a une opposition crédible parce qu'au mois, d'août dernier, il y a une grande coalition qui s'était formée justement pour en prévision des prochaines élections. Mais le problème de cette opposition, à chaque fois qu'elle a voulu participer aux élections, même quand elle a gagné, malheureusement, elle s'est fait voler sa victoire.
Vous qui êtes en contact avec ce petit pays d'Afrique australe, que demandent les citoyens aujourd'hui ?
Des choses très simples, hein, finalement, le respect basique des droits de l'homme, c'est-à-dire pouvoir être logé, avoir un travail, enfin avoir une vie comme tout le monde. Il faut pas oublier que ce pays a une économie catastrophique, il y a de la corruption, il y a de la violence. Moi, je pense que les Zimbabwéens demandent à la fois un contexte politique sain, mais aussi un redressement économique. Et lorsque vous interrogez les gens dans la rue, ils vous disent qu'ils ont besoin d'avoir un travail, d'avoir une vie normale. Et si on part de la diaspora zimbabwéenne en Afrique du Sud, on peut se demander également si elle n'aurait pas envie de revenir dans son pays pour pouvoir participer à la reconstruction, mais à la condition que on la laisse faire.
Merci Marianne Séverin. Encore beaucoup de questions en suspens après cette démission donc de Robert Mugabe. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 18h. Vous êtes chercheuse associée au LAM, le laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Au Maroc, une distribution d'aide alimentaire dans la région d'Essaouira a tourné au drame cet après-midi. Elle a entraîné une grave bousculade. Il y a au moins 15 personnes de tuées et 5 personnes ont été blessées, selon le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre du Liban, Saad Hariri, devrait se rendre demain en Égypte, le Caire, où se tient ce soir une réunion de la Ligue arabe pour évoquer les tensions au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Arabie saoudite. 15 jours après sa démission surprise depuis Riyad, Saad Hariri a par ailleurs été reçu hier midi par Emmanuel Macron à Paris, une médiation française qui a permis de faire un peu retomber la pression. Le président du Liban, Michel Aoun, a d'ailleurs remercié Paris pour son action. Alors pourquoi la France s'expose autant au Liban? L'éclairage de Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités et directeur de l'IREMO.
Les relations entre la France et le Liban plongent dans l'histoire, puisque ça remonte au 19e siècle et peut-être encore avant, lorsque le Liban n'existait pas encore, bien entendu, c'était l'époque de l'Empire ottoman. Et ensuite, les Français et la France est intervenue principalement pour protéger les chrétiens qui se trouvaient dans la région et donc dans ce qui deviendra plus tard le Liban. Par ailleurs, c'est la France qui a délimité les frontières du Liban en 1920, en accord avec une partie des communautés qui se trouvaient à ce moment-là dans le périmètre de ce qui devient le Liban. Et par la suite, la France a toujours été présente de manière très particulière. Et donc on a vraiment historiquement des relations extrêmement privilégiées entre le Liban et la France. Par exemple, chacun se souvient des relations très étroites que le président Chirac avait avec le premier ministre qui était par ailleurs sunnite, comme tous les premiers ministres au Liban, qui était Monsieur Hariri, le père de l'actuel Saad Hariri. Donc on a vraiment une histoire très particulière et très forte, avec beaucoup de Libanais qui sont en France. Enfin bref, nous avons là effectivement des liens importants, et quand il y a des difficultés, c'est bien souvent que le gouvernement libanais se tourne vers la France, et la France a toujours répondu présent.
Des propos recueillis par Claudia Bertram. Au Chili, les bureaux de vote ferment dans 4 heures. Premier tour de l'élection présidentielle, une élection qui pourrait marquer la fin d'un cycle pour la gauche latino-américaine. Comme en Argentine, au Brésil ou encore au Pérou, le pays devrait rebasculer dans le camp conservateur. 8 candidats sont en lice et l'ex-président de droite, Sébastien Piñera, est le grand favori. À Santiago du Chili, Justine Fontaine s'est rendue à l'Estadio Nacional, le stade emblématique de la capitale et le plus grand lieu de vote du pays. Reportage.
Ces électeurs viennent de repérer leur bureau de vote, car vu le nombre d'inscrits ici, il n'est pas forcément facile de s'y retrouver, comme le souligne Vladimir Zurita. Il est chargé de vérifier le bon fonctionnement du scrutin dans le secteur 6. Il y a près de 185 bureaux de vote dans le stade et un corps électoral d'un million de personnes environ. C'est ici qu'il y a le plus grand nombre d'électeurs et c'est le plus grand lieu de vote, le plus emblématique, explique-t-il. Eduardo Barra est arrivé dès l'ouverture des bureaux. Il vient de voter et compte glisser le même bulletin dans l'urne au second tour.
Piñera,
quoi qu'il arrive. Je te le dis tout de suite, je ne suis pas de droite, mais c'est le seul qui ait de l'expérience. Je crois qu'il peut faire quelque chose. Cristian Valenzuela, lui, vient de voter pour le Frente Amplio, une coalition de gauche créditée d'environ 10% dans les sondages. Son fils de 2 ans dans les bras, il salue la mise en place pour la première fois d'un scrutin proportionnel pour les législatives. Et il ne veut pas oublier que ce lieu a été un centre de détention juste après le coup d'État du général Pinochet en 1973. Symboliquement, c'est très fort. Ce lieu où tant de personnes ont été torturées et tuées, ce monument qui représente ce à quoi nous ne devons pas revenir, qu'on vote ici, que ce soit un lieu de démocratie aujourd'hui, c'est important, insiste-t-il. Selon les sondages, Sébastien Piñera devrait arriver largement en tête du premier tour, avec 40% d'intention de vote, suivi 15 points derrière du candidat de gauche Alejandro Guillet, soutenu par une partie de la majorité sortante.
Le reportage au Chili de Justine Fontaine. Angela Merkel s'est lancée aujourd'hui dans une ultime tentative pour former un gouvernement et éviter à l'Allemagne et à l'Europe une phase d'instabilité. Les négociations menées entre son camp conservateur, les libéraux du FDP et les écologistes se poursuivent depuis 11h30 ce matin. Elles doivent se terminer dans la soirée avec obligation de résultat. Sinon, il y aura de nouvelles élections législatives. En France, c'est une page qui se tourne pour François Fillon. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle se retire de la politique. Il a transmis les clés de son micro-parti Force Républicaine au sénateur LR Bruno Retailleau cet après-midi. François Fillon s'est exprimé depuis la Maison de la Chimie à Paris devant 500 de ses partisans. Un dernier tour de piste sans donner de leçons, a-t-il précisé, et pour saluer ses désormais anciens compagnons de route. Louise Baudet.
Oui, un François Fillon visiblement très ému quand il prend la parole devant cette assemblée de fidèles. Je n'ai rien oublié. Vous m'avez porté, défendu, protégé dans la tempête de la présidentielle. Vous m'avez tellement aidé. Discours d'adieu donc à huis clos. Ce sont des bribes qui parviennent à la presse, restées à l'extérieur. Bribes de discours et écho du tonnerre d'applaudissements qu'il a accueilli. À son arrivée, François Fillon s'était fait très laconique.
Très heureux de passer le témoin à Bruno Retailleau.
Il a donc bien décidé de tourner la page de la politique. Quoi qu'en dise Isabelle Le Callennec, ex-porte-parole de campagne.
Pas du tout, il n'y a jamais d'adieu en politique. Ce ne sont pas des au revoir. François Fillon a mené le combat pendant la présidentielle. Il est là aujourd'hui, il passe le relais à Bruno Retailleau et c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre.
Une nouvelle aventure sans François Fillon donc, qui à 63 ans travaille désormais comme associé d'une société de gestion d'actifs et d'investissements. Il va bien, il est heureux, assure son entourage. François Fillon qui dit reconstruire sa vie autrement, veut créer une fondation pour la coexistence des minorités dont les chrétiens d'Orient et se consacre aussi à sa défense en attendant son probable procès.
Le reportage de Louise Baudet. Toujours concernant les Républicains, le candidat à la présidence du parti, Maël de Calan, dit vouloir se rapprocher des ténors comme Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand en cas d'échec face à Laurent Wauquiez. L'union de la droite et du centre a encore un sens, a-t-il par ailleurs martelé au forum de Radjoji en début d'après-midi. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a par ailleurs suggéré au probable prochain président de LR, Laurent Wauquiez, de sortir de l'ambiguïté et de lui proposer une alliance. Interrogé par RTL ce midi, l'ex-candidate à la présidentielle a aussi jugé envisageable que le parti choisisse une autre personnalité qu'elle pour représenter le FN en 2022. Les policiers resteront armés hors de leur service, conformément à la disposition prise après les attentats de 2015. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est exprimé à ce sujet ce midi après l'émotion suscitée par le drame de Sarcelles, un gardien de la paix qui a tué 3 personnes et gravement blessé sa petite amie hier soir avec son arme de service qu'il a ensuite retournée contre lui. Enfin, le couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa, qui est décédé avant-hier à l'âge de 77 ans, sera enterré demain en Tunisie. L'enterrement aura lieu dans la ville de Sidi Bouzaïd, dans la banlieue nord de Tunis. Le temps, demain, lundi 20 novembre, temps ensoleillé au sud, plus nuageux au nord avec quelques gouttes de pluie au nord de la Seine et les températures de 3 à Strasbourg jusqu'à 14 à Ajaccio. Il fera 6 à Lille et Paris, 7 à La Rochelle. Rochelle et 13 à Cherbourg. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. Principale information au Zimbabwe. Le président Mugabe a accepté de démissionner. Il s'adressera ce soir à la Nation. Nous y reviendrons largement dans les matins de ce lundi 20 novembre.